Nouvelle d'Anton Pavlovitch Tchekhov. En villégiature. Récemment marié, un jeune couple va et vient sur la plateforme d'une petite station de chemin de fer. Elle se presse contre lui, il la tient à la taille. Ils sont heureux. Derrière des lambeaux de nuages, la lune les regarde en se refrognant. Elle est sans doute jalouse et porte peine pour sa virginité inutile à tous. L'air immobile est saturé de l'odeur des lilas et des saintes Lucies. Par-delà la voix, quelque part, crie un râle de Genet. « Comme on est bien, Sacha, comme il fait beau !» dit l'épouse. « On croirait en vérité que c'est un rêve. Comme ce petit bois nous regarde d'un air engageant et caressant, combien aimables sont ces honnêtes et taciturnes poteaux télégraphiques. Ils animent le paysage et rappellent qu'il existe quelque part, Sacha, des hommes et de la civilisation. N'aimes-tu pas l'instant où le vent apporte le léger bruit d'un train qui approche ? Oui, Varia. Mais que tu as les mains brûlantes, c'est que tu t'émeus, Varia. Que nous a-t-on préparé ce soir pour le souper ? Un potage à la glace et un petit poulet de grain. Il y a assez d'un petit poulet pour nous deux. On t'a apporté aujourd'hui de la ville des sardines et de l'esturgeon. La lune, exactement comme si elle eût prisé du tabac, se cacha derrière un nuage. Le bonheur humain lui rappelait trop sa solitude, sa couche solitaire, par-delà les forêts et les vallons. « Voici le train !» dit Varia. « Que c'est bien !» Au loin apparurent trois yeux de feu. Le chef de gare sortit sur le quai. Des reflets de signaux glissèrent, çà et là, sur les rails. « Laissons passer le train, » dit Sacha, bâillant. « Puis nous rentrerons. Nous sommes si heureux, Varia, que c'est à n'y pas croire. » Le formidable monstre noir glissa, sans bruit, vers le quai, puis s'arrêta. Aux vitres à demi éclairées de wagons parurent des figures ensommeillées, des chapeaux, des épaules. « Ah ! » cria-t-on de l'un des wagons. « Varia et son mari sont à notre rencontre. Les voici ! Varenka ! Varechka ! Ah !» Deux petites filles sautant du wagon se jetèrent au cou de Varia. Derrière eux apparurent une forte dame âgée, un monsieur maigre à favoris gris, puis deux lycéens chargés de bagages. Derrière les lycéens, la gouvernante. Derrière la gouvernante, la grand-mère. « nous voilà, mes chéris !» commença le monsieur au favori, serrant la main de Sacha. « Alors, tu étais impatient de nous voir ? Tu as certainement grogné contre ton oncle qui ne venait pas. Kolia, Kostia, Nina, Fifa, mes enfants, embrassez votre cousin Sacha. Nous arrivons tous chez toi, toute la couvée, pour 3 ou 4 jours. J'espère que nous ne vous gênerons pas. Reçois-nous sans cérémonie, je t'en prie. » Apercevant leurs oncles et sa famille, les époux furent terrifiés. Tandis que son oncle parlait et l'embrassait, ce tableau passa comme un éclair dans l'imagination de Sacha. Sa femme et lui abandonnant à leurs hôtes leurs 3 chambres, leurs oreillers, leurs couvertures, les sturgeons, les sardines et le potage glacé, bafrés, lapés en 1 seconde, les petits cousins arrachant les fleurs, renversant l'encre, criant, la tante malade parlant de sa maladie, ver solitaire et mal au creux de l'estomac, et racontant qu'elle est née baronne von Fintisch. Et Sacha, en regardant déjà sa jeune femme avec haine, lui chuchota. « C'est pour toi qu'ils viennent. Que le diable les emporte !»« Non, c'est pour toi !» répondit-elle, pâle, elle aussi, avec haine et colère. « Ce ne sont pas mes parents, mais les tiens !» Et se retournant vers ses hôtes, elle leur dit, avec un sourire accueillant, « Soyez les bienvenus !» La lune sortit de derrière le nuage. Elle paraissait sourire. il semblait qu'il lui fût agréable de ne pas avoir de parents. Sacha, s'étant détourné pour cacher à ses hôtes son méchant visage désespéré, dit, en donnant à sa voix une expression joyeuse et affable, « Soyez les bienvenus, chers hôtes !» Nocturne. Une mouche de moyenne grandeur s'introduisit dans le nez du conseiller de cour Gaguine, substitut du procureur. Fût-ce la curiosité passionnée qui l'y poussa, ou y tomba-t-elle à l'étourdie en raison de la nuit, toujours est-il que le nez du substitut, ne tolérant pas la présence d'un corps étranger, donna les signes de l'éternuement. Gaguine éternua donc, éternua avec délice, avec un sifflement aigu et si fort que le lit en trembla et rendit un bruit de ressort. Maria Mikhailovna, la femme du substitut, blonde corpulente, tremblant elle aussi, s'éveilla. Elle ouvrit les yeux dans l'obscurité, soupira et se retourna dans son lit. 5 minutes après, elle se retourna à nouveau et ferma plus fortement les yeux, mais le sommeil ne revenait pas. Après avoir soupiré et s'être retournée d'un côté sur l'autre, elle se souleva, enjamba son mari et, fourrant ses pieds dans ses pantoufles, se rendit à la fenêtre. Il faisait noir, on ne voyait que des masses d'arbres et des toits de hangars obscurs. L'Orient pâlissait à peine. Et encore, des nuages s'apprêtaient-ils à couvrir cette pâleur. Dans l'air assoupi et enveloppé de brume, le calme régnait. Bien que payé pour troubler ce calme, le gardien des villas lui-même se taisait. Le râle de Genet, le seul volatile sauvage qui ne fuit pas le voisinage des habitants des capitales en villégiature, se taisait aussi. Le calme, ce fut Maria Mikhailovna en personne qui le rompit. Regardant dehors, elle poussa soudain un cri. Il lui sembla qu'une forme noire, indéfinie, sortant du parterre, plantée d'un maigre peuplier tondu, se dirigeait vers la maison. Elle crut tout d'abord que c'était une vache ou un cheval, puis, s'étant frotté les yeux, elle commença à distinguer nettement des contours humains. Il lui parut que la forme noire s'approchait de la fenêtre de la cuisine, et, après avoir un peu attendu, hésitant apparemment, mettait un pied sur la corniche et disparaissait dans l'ombre de la fenêtre. Un voleur ! Ce fut l'idée qui lui vint en tête et une pâleur mortelle couvrit son visage. L'imagination de Maria Mikhailovna lui dessina en un clin d'œil le tableau que craignent toutes les dames à la campagne. Un voleur s'introduisant dans la cuisine, de la cuisine à la salle à manger, prenant l'argenterie dans l'armoire, puis pénétrant dans la chambre à coucher, armé d'une hache, une figure de brigand s'emparait des bijoux. Les genoux de la femme du substitut fléchirent et des fourmis lui coururent dans le dos. Elle secoua son mari. « Vassia, Basile, Vassili Prokofitch, ah mon Dieu, il est comme mort, réveille-toi, Basile, je t'en supplie !»« Hein ?» rugit le substitut, aspirant l'air et faisant des bruits de mastication. « Au nom du Créateur, réveille-toi, il vient d'entrer un voleur dans notre cuisine. Je regardais à la fenêtre et ai vu quelqu'un grimper de la cuisine et vint s'introduire dans la salle à manger. Les cuillères sont dans l'armoire, Basile !» C'est ainsi qu'on s'est introduit l'an dernier chez Mafra Legofrna.
Que te faut-il ?
Dieu, il n'entend pas. Mais comprends donc, statue, que je viens de voir à l'instant un homme qui a grimpé dans notre cuisine. Pelageya va s'effrayer et l'argenterie est dans l'armoire.
Baliverne !
Basile, c'est insupportable. Je te parle d'un danger et tu dors, tu meugles. Veux-tu donc qu'on nous vole et qu'on nous égorge ? Le substitut du procureur se souleva pesamment, s'assit dans son lit en plissant l'air de ses bâillements.
Le diable sait quels gens vous êtes,
marmonna-t-il. On ne peut même pas se reposer la nuit, on vous réveille pour des bêtises.
Mais Basile, je te jure que j'ai vu un homme grimper par la fenêtre. Eh bien, après, qu'il grimpe. C'est selon toute vraisemblance le pompier de Pelagueia qui vient chez elle.
Quoi ?
Qu'est-ce que tu dis ?
Je t'ai dit que c'est le pompier de Pelagueia qui est là.
C'est encore pire !
S'écria Maria Mikhailovna.
Pire qu'un voleur ! Je ne veux pas supporter de cynisme dans ma maison !
Quelle vertu, voyez ça ! Tu ne supporteras pas de cynisme.
Mais en est-ce donc ? Pourquoi employer hors de propos des mots étrangers ?
Cela, mamie, existe de toute éternité. C'est consacré par la tradition. Il est pompier, c'est pour fréquenter les cuisinières.
Non, Basile, tu ne me connais pas. Je ne puis admettre l'idée que dans ma maison, ceci, cela... Veux-tu te rendre à l'instant à la cuisine et lui enjoindre de déguerpir, à l'instant même ? Et demain, je dirai à Pelagueia qu'elle ne se permette pas de pareilles choses. Moi, morte, vous pourrez tolérer chez vous de pareils cynismes. Mais pour l'instant, ne l'osez pas. Veuillez y aller.
Du diable ! Grommait la Guéguine ennuyée.
Mais réfléchis un peu avec ta microscopique cervelle de femme. Pourquoi irais-je ?
Basile, je m'évanouis. Guéguine, crachant de dépit, mit ses pantoufles et se rendit à la cuisine. Il faisait noir comme dans un tonneau bouché et le substitut dut avancer à tâtons. Il palpa en chemin la porte de la chambre des enfants et réveilla la vieille bonne.
« Vassilissa, dit-il, tu as pris hier soir ma robe de chambre pour la nettoyer. Où est-elle ? »
« Je l'ai donnée, monsieur, à nettoyer à Pelagueia. »
Quel désordre ! Vous prenez les vêtements et ne les remettez pas en place. Il faut maintenant me promener sans robe de chambre. »
Entrant dans la cuisine, Guéguine se rendit vers l'endroit où, sur une malle, en dessous de la planche aux casseroles, couchait la cuisinière.
« Pelagueia ! » fit-il en lui tâtant l'épaule et la secouant. « Est-ce bien toi, Pelagueia ? Qu'as-tu à faire semblant de dormir ? Voyons, tu ne dors pas ! » Qu'est-ce qui vient d'entrer chez toi par la fenêtre ?
Bonjour. Quelqu'un est entré par la fenêtre ? Qui peut entrer ?
Ah, n'obscurcis pas les choses. Dis plutôt à ton vaurien de filer au plus vite. Tu entends ? Il n'a rien à faire ici.
Mais où avez-vous la tête, monsieur ?
Bonjour. Me prenez-vous pour une imbécile ? Toute la sainte journée, on s'éreinte à courir. On n'a pas de cesse, et la nuit, vous allez dire des choses pareilles. Je suis payé 4 roubles par mois, avec mon thé et mon sucre. Et sauf cela, aucune considération de personne. J'ai servi chez des commerçants et je n'ai pas connu pareille honte.
Allons, allons, pas de jérémiade.
Qu'à la minute ton soudard déguerpisse d'ici, tu m'entends ?
C'est péché à vous, monsieur, dit Pelagueia avec des larmes dans la voix.
Des gens instruits, nobles, et ils n'ont pas idée que dans notre chagrin, dans notre vie malheureuse,
elle se met à pleurer.
On peut nous insulter, et personne pour nous défendre.
Allons, allons, moi, tu penses, ça m'est égal, c'est madame qui m'a envoyé. Pour ce qui est de moi, laisse même entrer un diable par ta fenêtre, je m'en moque. Il ne restait au substitut qu'à reconnaître qu'il avait eu tort dans cette perquisition, et à revenir vers sa femme.
Pelagueia, dit-il à sa cuisinière. « Écoute, tu as pris ma robe de chambre à nettoyer. Où est-elle ? » ?»«
Ah, pardon, monsieur. J'ai oublié de la mettre sur la chaise. Elle est pendue à un clou près du poêle. »
Guéguine chercha à tâtons sa robe de chambre près du poêle, puis l'endossa et s'achemina paisiblement vers sa chambre à coucher.
Après le départ de son mari, Maria Mikhailovna s'était remise au lit à attendre. Elle y resta tranquille 3 minutes, puis commença à s'inquiéter.
« Comme il reste longtemps, pensa-t-elle, c'est ce cynique qui est là, c'est bien, mais si c'est un voleur ?»
Et son imagination lui dessina ce tableau. Son mari entre dans la cuisine noire, pan ! Un coup de hache. Il meurt sans avoir proféré un son, une mare de sang.
5 minutes, 5 minutes et demie, enfin 6 minutes passent. Une sueur froide mouille son front.
« Basile !»
s'écria-t-elle.
« Basile !»«
Qu'as-tu à crier ? Je suis ici !» Et elle entendit les pas de son mari. « Est-ce que l'on t'égorge ?» Le substitut s'approcha du lit et s'assit sur le bord.
« Il n'y a personne, » dit-il. « Pure imagination farceuse. Tu peux te tranquilliser. Ta bête de Pélagia est aussi vertueuse que sa maîtresse. Quelle poltronne tu fais ! Que tu es !»
Et le substitut se mit à taquiner sa femme. Il avait perdu le sommeil et ne voulait plus dormir.
« Quelle poltronne !» disait-il en riant. « Va dès demain chez le docteur faire soigner tes hallucinations. Tu es une psychopathe !»«
Ça sent le goudron, » dit Maria Mikhailovna. « Le goudron, quelque chose qui ressemble à de l'oignon ou à de la soupe aux choux. »«
Oui, ça sent on ne sait quoi. Je n'ai plus envie de dormir. Attends, je vais allumer. Où sont les allumettes ?»
Et en même temps, je vais te montrer la photographie du procureur de la cour d'appel. Hier, en prenant congé, il nous a donné tous son portrait, avec un autographe.
Gagine frotta au mur une allumette et alluma sa bougie. Mais, avant qu'il eût fait un pas pour aller chercher la photographie, un cri pénétrant, déchirant l'âme, retentit derrière lui. En se retournant, il vit, braqué sur lui, les deux grands yeux de sa femme, remplis de stupeur, d'effroi et de colère.
« Tu as quitté ta robe de chambre à la cuisine ?» demanda-t-elle en pâlissant.
« Eh bien,
regarde-toi. »
Le substitut du procureur se regarda et il poussa un « Ah oh !» Sur ses épaules, au lieu de sa robe de chambre, flottait une capote de pompier. Comment s'y trouvait-elle ? Tandis qu'il résolvait ce problème, un nouveau tableau, horrible, impossible, se dessinait dans l'imagination de sa femme. La nuit, le silence, des chuchotements, etc., etc.